chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Depuis, le rideau est retombé. Mais pour l'exposition Fête et divertissement à la cour, on célébrait à Versailles le lever du rideau au château. Et c'est Raphaël Morata qui nous emmenait au théâtre. Après sa restauration réalisée au Petit Trianon, le temple de Minerve, le plus ancien décor de scène à l'italienne du monde, a été montré pour la première fois lors de l'exposition Fête et divertissement à la cour. Sur le plateau de scène du Théâtre de la Reine au Petit Trianon, une ambiance de couvent. Deux jeunes femmes sont à leur ouvrage. Posées sur des tréteaux, des pans d'une délicate toile de lin décorée de motifs architecturaux. Avec un soin infini, les membres de l'équipe de Jean-Paul Gousset sont en train d'achever le dernier acte de la restauration du Temple de Minerve, le plus ancien décor de scène à l'italienne du monde. 1754. Ce qui fait la fierté du château de Versailles, qui le présente pour la première fois à l'occasion de l'exposition Fêtes et divertissements à la cour. Celui de l'Opéra Royal suédois de Drottningholm ne date que de 1763. Quant à celui du théâtre du château de Krumau en Bohême, il est de 1768, déclare Jean-Paul Gousset, directeur technique de l'Opéra Royal de Versailles, qui désirait depuis longtemps voir ce décor historique remonté avec son tableau de scène à 6 châssis de coulisses, sa grande ferme à 6 châssis et 4 portes, sa petite ferme, sa toile de fond et ses frises. Cet ensemble réalisé par la famille Slotst, en particulier Sébastien Antoine, qui était dessinateur de la chambre et du cabinet du roi, et au menu plaisir, se trouvait entreposé dans les réserves du château depuis 1846. Le roi Louis-Philippe souhaitait s'en servir pour les fêtes du mariage de son fils, le duc de Montpensier, avec l'infante d'Espagne, Louise Fernande de Bourbon. Si pratiquement tous les décors d'Ancien Régime ont été endommagés, réaffectés ou purement et simplement détruits, le temple de Minerve, lui, a survécu par son étonnante faculté d'adaptation. Commandé pour les soirées de Madame de Pompadour au château de Fontainebleau, ce décor apparaît au premier acte de Thésée. Fort du succès de cette tragédie de Quino mise en musique par Lully, il sera remonté à plusieurs reprises, puis employé dans d'autres spectacles, d'Olympie de Voltaire à Thémistocle de Philidor. La qualité de la structure, sapin et peuplier, réalisée par le menuisier machiniste Louis-Alexandre Giraud, ou encore le choix d'un lin exceptionnel, digne d'un drap de lit selon Gousset, ont assuré à ce décor un caractère de phénix. Il n'en demeure pas moins qu'il a tout de même été grignoté par le temps, le bois attaqué par des insectes, tels les vrillettes. Les broquettes, petits clous à large tête rouillée, ont aussi oxydé la toile. Il a fallu près de 4 mois, une dizaine de restauratrices, pour soigner tous ces maux et redonner son éclat à un temple dont les parties peintes sur du papier sont maintenues par de la colle de peau de lapin. La gageure était donc de préserver sa valeur archéologique sans dénaturer. D'où cette impression d'un décor pâle, comme très légèrement aquarellé. Ce n'est pas de la peinture de chevalet, précise Jean-Paul Gousset. L'œuvre peinte est d'un ton plus clair pour tenir compte de la lumière chaude des lampes à huile ou des bougies utilisées à l'époque. Les fonds de marbre blanc veiné et de brèche violette avec moulures et trophées rehaussés d'or prennent ainsi toute la force de leur tridimensionnalité. L'illusion d'un temple athénien est parfaite. Pour un peu, verrait-on sortir aiglé princesse éprise du héros Thésée, sa confidente Cléone ou encore le roi Égée lui-même. Cependant, cette tragédie en musique de Lully n'a pas été le dernier acte du décor à Versailles. Avant d'être remisé dans un garde-meuble à Paris puis dans les magasins du château, il a servi une ultime fois pour la reprise d'Olympie en 1787 dans un lieu aujourd'hui disparu, le théâtre de l'Aile Neuve, l'actuel escalier Gabriel. C'est l'une des surprises et curiosités de fêtes et divertissements à la cour organisées dans les salles d'Afrique et de Crimée du château. Un paradoxe, s'exclame Béatrix Saul, l'une des commissaires de l'exposition. Il y a longtemps eu un écart entre l'absence d'espace dédié aux représentations et l'omniprésence du divertissement qui s'insinuait partout, à Versailles, Trianon ou Marly. Ces œuvres étaient données dans des lieux éphémères, avec des structures démontables, comme la salle de la Comédie de la Cour des Princes, créée sous Louis XIV, ou les étranges maisons de bois de la reine Marie-Antoinette. Quand le divertissement à Versailles devenait détournement, et ce plaisir qui guérit de l'ennui. Thank you. L'opéra solennel de Gluck, le musicien favori de la reine Marie-Antoinette, nous accompagnait avec l'ouverture d'Orphée et d'Eurydice. Versailles, sous le soleil exactement. Versailles, la nouvelle série de Canal+, racontait comment la construction du château a permis à Louis XIV de devenir le roi soleil. À tout de cette fiction à grand spectacle. Des complots, du sexe, un peu de sang et beaucoup de glamour. Chic, grand siècle, les décors et costumes sont à tomber. Versailles au cinéma, c'est un décor grand siècle, en effet. Versailles fait depuis longtemps le bonheur des cinéastes et des spectateurs. Alors que l'acteur-réalisateur Alan Rickman réinvente en Angleterre les décors du domaine royal pour son film Les Jardins du Roi, d'autres fictions ont eu la chance d'investir les lieux pour tourner. C'est le cas de la série Versailles, prestigieux projet franco-canadien commandé par Canal+, qui a pris ses quartiers dans les allées du château pendant 6 mois, à l'heure où l'on commémorait le tricentenaire de la mort du roi soleil. Reportage par Emmanuel Giraud. Par le Britannique Alan Rickman, les amours entre le rugueux André Lenôtre, Matthias Schoenaerts, découvert dans De Rouille et d'Os, et la farouche Sabine de Barra, Kate Winslet, semblent curieusement avoir été inspirés par Jane Austen. Lorsque les deux personnages se croisent sur le chantier de Versailles pour imaginer ensemble le bosquet des rocailles, le réalisateur des Jardins du Roi s'autorise en effet toutes les libertés pour abolir les barrières sociales réputées infranchissable et centrer son récit sur le destin d'une femme qui tente de se libérer de la domination des hommes. Cette belle histoire d'amour est totalement fictive, nous confirme Alan Rickman. Un personnage féminin comme celui de Sabine de Barra, qui exerce le métier de paysagiste, n'aurait jamais pu exister. Comme c'est si souvent le cas au cinéma, ce personnage n'existe que dans notre imagination. Le modeste budget du film l'ayant contraint à réinventer totalement Versailles, loin de la France, le cinéaste a investi Waldesdon Manor, Cleveland House ou encore Blenheim Palace le temps du tournage. « Je n'avais pas non plus besoin de montrer le domaine achevé », précise-t-il, car à l'époque où se situe l'action, Versailles n'était qu'une forêt d'échafaudages. La cour n'y avait pas encore emménagé. Beaucoup d'autres films ont eu cependant la chance de planter leur caméra dans ce lieu d'exception. L'affaire du collier de la reine en 1946 de Marcel L'Herbier. Marie-Antoinette, reine de France en 1956 de Jean Delannoy. Les trois mousquetaires en 1973 de Richard Lester. Le roi danse en 1973 aussi de Gérard Corbiot. Marie-Antoinette, 2005 de Sofia Coppola. Midnight in Paris en 2011 de Woody Allen. Les adieux à la reine en 2012 de Benoît Jacquot. Depuis 1904, le domaine de Versailles a accueilli plus de 160 tournages en rapport plus ou moins lointain avec l'histoire de France et a attiré les plus grands réalisateurs. Abel Gance, Sacha Guitry, Max Ophüls, Andrzej Wajda, Stephen Frears. Avec près de 10 millions de visiteurs, la demeure du Roi Soleil constitue, dans l'imaginaire collectif, un lieu de pouvoir, de démesure et de rêve. Dans une lumière curieusement artificielle, un somptueux carrosse se range dans la cour d'honneur du château de Versailles. Entouré d'une foule de courtisans, à Louis XIV encore jeune, s'affaire au pied des façades spectaculaires. Une caméra perchée au bout d'une grue ne manque rien de la scène. Comme chaque lundi, jour de fermeture du château au public, Jalil Lespert, réalisateur d'Yves Saint-Laurent, a mis en boîte les scènes des deux premiers épisodes de Versailles, une série ambitieuse qui fera le bonheur des abonnés à l'automne 2015. Shocking ! Le roi de France de la série est né à Londres. Dans les tenues de Louis XIV, George Blagden inspire naturellement l'autorité de son personnage. L'acteur, déjà remarqué dans Les Misérables de Tom Hooper et la série télévisée Viking, est le pivot de cette grande aventure en 10 épisodes tournée en langue anglaise. Le budget est estimé, tenez-vous bien, à 27 millions d'euros, dont 30 000 euros pour les perruques. Alexander Valos est Monsieur, frère de roi, tandis que Dominique Blanc et Amira Khazar incarnent respectivement Anne d'Autriche et une courtisane. La première saison montre Louis XIV âgé de 28 ans lorsqu'il lance la construction du Grand Versailles. Dans un récit mêlant histoire et fiction, manœuvres politiques et secrets d'alcôve. C'est une ambition comme on n'en avait pas vu dans l'Hexagone depuis longtemps, s'est enthousiasmé dans Les Échos Olivier René Veillon, directeur de la commission du film d'Île-de-France. Thank you. Canal+ a débuté le développement de la série, la chaîne a envisagé d'en déplacer le tournage en Europe centrale. Il n'est pas rare que Prague serve à représenter Paris dans des productions au budget mesuré. Un accord est finalement trouvé entre les coproducteurs et le château pour que les scènes dans les jardins et la galerie des glaces soient tournées sur place. Le reste des décors, dont la chambre de Louis XIV, a été reconstitué au studio de Bry-sur-Marne. D'autres séquences sont tournées au château de Maisons-Laffitte, ainsi que dans les jardins du parc de Sceaux. Lorsque se trouve dans un décor comme celui-là, la tentation serait de filmer la beauté des lieux, mais d'oublier les personnages, a expliqué Jalil Lesper dans un reportage pour Canal+. Mon but est de me concentrer sur eux, en réalité. Si Louis XIV est depuis longtemps devenu une star de cinéma, seul le personnage de Marie-Antoinette est en mesure de lui faire de l'ombre. Tous les films qui lui sont consacrés n'ont pas le même souci du respect de l'histoire. Le scénario de The Moon and the Sun, qui vient également d'être tourné à Versailles, se situe aux confins du fantastique. Inspiré du roman à succès de Vonda McIntyre, cette coproduction américano-chinoise décrit un Louis XVI, Pierce Brosnan, en quête d'immortalité. L'observation d'une sirène amenée à la cour de France serait en mesure de lui procurer l'unique pouvoir qui semble lui manquer. Pour une question de budget, le reste du tournage qui devait se dérouler à la Cité du cinéma, les studios de Luc Besson situés à Saint-Denis, a été achevé en Australie. Nous devions faire en sorte de pouvoir ouvrir une porte à Versailles et la refermer à Melbourne, s'amuse le producteur Bill Metchanich, à qui l'exercice a tout de même donné quelques sueurs froides. Quant à Alan Rickman, outre les contraintes budgétaires, il résume le principal défi de son film en une savoureuse réplique. « Je suis anglais. Cela vous donne une idée du handicap avec lequel je partais pour interpréter Louis XIV. » Et d'ajouter, diriger un film et en tenir l'un des premiers rôles s'avère également très difficile. Le point positif à jouer Louis XIV est que chacun avait l'habitude et le devoir d'aller à lui. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera à Versailles pour une nouvelle émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.